Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant Festival International du Film de Muret avec Il était une fois Michel Legrand. If you say that you are mine. Bonjour Grégor.
Bonjour.
Et bonjour Hugo.
Et bonjour.
Quel moment incroyable j'ai vécu au Festival International du Film de Muret devant un documentaire. Il était une fois Michel Legrand. J'ai pris une claque et c'est le premier mot que j'ai dit quand je suis sortie de la salle en projection presse.
En effet, ce documentaire musical de 1h49 minutes, il a été réalisé par David Herzog de Sit, qui a déjà réalisé le film Détrompez-vous en 2007. Le synopsis de ce film est le suivant. La musique, c'est la vie. Michel Legrand entre au Conservatoire de Paris à l'âge de 10 ans et s'impose très vite comme un surdoué. 3 Oscars et 75 ans plus tard, il se produit pour la première fois à la Philharmonie de Paris devant un public conquis. De la chanson jusqu'au cinéma, ce véritable virtuose n'a jamais cessé de repousser les frontières de son art, collaborant avec des légendes comme Miles Davis, Jacques Demy, Charles Aznavour, Barbara Streisand ou encore Nathalie Dessay. Son énergie infinie en fait l'un des compositeurs les plus acclamés du siècle, dont les mélodies flamboyantes continuent de nous enchanter.
Dans ce documentaire, on est en totale immersion avec Michel Legrand, cet impressionnant maestro, ce compositeur hors pair de génie qui a été à l'aube de quelque chose de fou, qui a donné vie à des musiques de films, mais que vous connaissez tous, que vous avez tous en tête, des chansons aussi que vous avez dû fredonner ou que vos parents ont fredonné. Ça a été vraiment une icône et ça l'est resté jusqu'à son dernier souffle. Et c'est ce que nous propose le voyage où nous emmène David Herzog des Sit. Et franchement, c'est prenant, c'est captivant, c'est intense, ça vous met les poils, ça vous donne envie de rencontrer tous ces gens qui ont malheureusement disparu et que vous voyez passer dans la vie de Michel Legrand. Il leur apporte quelque chose, que ce soit un grand monsieur comme Nougaro ou d'autres personnes qui vont franchir un jour la porte de son studio, poser la main à côté de lui sur le piano et essayer de faire des musiques folles comme un réalisateur, Jacques Demy, qui est un grand monsieur, si je vous dis Les Demoiselles de Rochefort.
De nom, ça me dit quelque chose.
Les Parapluies de Cherbourg. Des moments très très forts. Et il y en a plein comme ça. Et il a aussi, enfin, il était aussi connu en France qu'aux États-Unis. Mais pas que. Non, pas que. C'était mondial. Sa renommée est mondiale. Ses concerts étaient complets à chaque fois. Ses représentations. Ce mec est un titan. Ce mec est un génie de la musique. C'est un grand, grand, grand compositeur, un grand monsieur. Et David Herzog des Sit nous permet de vivre les derniers instants de Michel Legrand. On ressent toute la force de ce compositeur, mais aussi son caractère qui n'avait pas d'égal. Il avait vraiment cette façon de prendre les gens. On pouvait le haïr le matin et l'aimer le soir. Et c'était vraiment un grand monsieur. Et je suis ravie de pouvoir en parler avec le réalisateur David Herzog des Sit que j'ai eu en interview au Festival international du film de Muret.
Bonjour David.
Bonjour.
On est au Festival international du film de Muret où vous venez présenter Il était une fois Michel Legrand. Un film vraiment qui touche le cœur, qui touche le corps, les émotions. On palpite avec vous et je voudrais vous dire que votre voyage que vous avez fait avec Michel Legrand, on le vit, mais à 100%.
Bah écoutez, déjà, c'est hyper émouvant de vous entendre dire ça. Ça me touche beaucoup parce que ce que vous décrivez, c'est vraiment ce que je voulais mettre dans ce film, en fait. J'avais très envie d'emmener les spectateurs à la découverte d'un homme, d'un artiste, évidemment, parce que c'est comme ça qu'on connaît Michel Legrand, mais derrière l'artiste, il y avait un homme assez fascinant, colérique, tempétueux, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà, en tout cas, un homme vraiment incroyable, qui a vécu une vie folle, qui a vécu même plusieurs vies dans une vie, et j'avais très très envie de brosser un portrait le plus exhaustif possible de cet homme-là.
Oui, puis vous êtes en immersion totale, vous êtes vraiment avec lui tout le temps, dans ses rencontres, dans son caractère, vous voyez vraiment son caractère le fait qu'il est exigeant par-delà l'excellence, parce que c'est ce qu'il a appris avec Madame Boulanger et qui retranscrit cela.
Non, absolument. C'était vraiment une volonté de ne pas faire un film hagiographique, de ne pas se reposer sur la facilité de dire Michel Legrand est un génie. Ce qui est évidemment une certitude, hein. On le sait tous, on l'a tous senti, on l'a tous vécu, mais il fallait aller plus loin que ça. Et voilà, on a voulu dans ce film-là, j'ai insisté pour qu'on puisse montrer le côté caractériel de Michel qui pouvait être très compliqué à gérer, qui a fait peur à certains, pas à d'autres. Et dans mon cas, j'ai envie de dire, qui m'a donné loisir de vivre des moments aussi extrêmement intimes avec la personnalité qu'il était. Et je suis ravi en tout cas que dans le film, vous l'ayez perçu de cette façon-là.
Oui, parce que c'est, comme le disent les témoins, c'était un tueur, mais qui devenait, le matin c'était un tueur, et le soir c'était le séducteur qui essayait de rappeler et que les gens l'aiment. Et c'est vraiment beau, et aussi le fait de dire bah, j'ai envie de lui rentrer dedans pour être poli, et mais bah là après j'ai envie de l'aimer, j'ai envie d'être avec lui et de partager ça avec lui.
Bah, c'était très difficile de ne pas aimer Michel, en fait, je pense. Ça c'est quelque chose qui me fascine et qui continue de me fasciner, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé la réponse à la raison pour laquelle le public émettant cet homme. Alors, je suis complètement conscient que sa musique parle, ça c'est sûr, c'est une bonne piste, mais je pense qu'il y a une dimension qui va au-delà de la musique. Je pense que cet homme est né avec une capacité à recevoir l'amour des gens, peut-être même plus qu'à en donner, vraiment. Et on le sent, on le voit, d'ailleurs on le voit même aujourd'hui, ça fait maintenant 15 ou 20 festivals qu'on fait. D'ailleurs on revient de Los Angeles, on était à Hollywood la semaine dernière, on était en compétition là-bas. Très honnêtement, je me suis dit bon, on y va pour la forme, on va montrer le film, c'est sympa, parce que c'est quand même une terre où Michel a été accueilli, il a travaillé, il a fait parmi les plus grandes musiques de films de l'histoire, il les a faites là-bas. Donc il y avait un vrai sens, hein, une vraie signification à être là-bas. Mais la surprise, ça a été de voir, au moment de la projection, enfin à la fin de la projection, un public complètement subjugué, quoi. Enfin, moi, c'était une claque. Et je vous assure que, sincèrement, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait un accueil aussi grandiose de la part d'un public américain. On a eu droit à une standing ovation, visiblement la première du festival depuis 17 ans. Et on est reparti avec le prix.
Wow, félicitations.
Du meilleur documentaire. Et alors là, je vous assure que faire un premier film documentaire parti avec un prix Hollywood, c'est plus qu'un rêve de gosse, c'est vraiment incroyable. Pour revenir à ce que vous disiez, à la réponse pardon, que je vous faisais à votre question, donc on a même constaté là-bas à quel point les gens l'aiment. Et je dis l'aiment parce que les gens continuent de l'aimer. Et ça, c'est fort. C'est vraiment fort de se rendre compte qu'avec ce film, on a réveillé comme ça la mémoire, évidemment, de personnes qui ont un certain âge aujourd'hui, mais l'intérêt aussi de plus jeunes qui découvrent avec ce film-là un compositeur hors norme, en fait. Hors norme et hors du temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui reste un mystère pour moi.
Et puis, c'est une filmographie aussi. C'est impressionnant, tous les films dont il a fait la musique, dont il a donné corps, que ce soit la musique juste du film pour habiter le film, mais aussi celle où la musique prend vie sur l'acting. C'est vraiment quelqu'un qui a su, et ce qui était fou, c'est qu'il demandait au réalisateur d'être avec lui et de monter avec... Et ça a donné une symbiose, et cette symbiose, on la ressent aussi bien quand on voit le film que quand on entend la musique.
Non, mais alors, encore une fois, merci, parce que ça rend hommage aux collaborateurs du film, notamment l'équipe de montage, hein, Margot et Vincent, avec qui j'ai monté ce film. On avait vraiment très envie de baigner le spectateur dans le plus possible de musique de Michel Legrand. Vous savez, ce qui est très compliqué quand on fait un film sur des gens comme ça qui ont fait autant de musique, c'est qu'à un moment donné, vous vous retrouvez avec une ardoise en termes de droits musicaux, de prix, qui est colossale. Ouais. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on a recours à ce qu'on appelle des musiques de librairie. Mais c'est pas pour dénigrer, hein, la musique de librairie, on a des très bonnes choses. Maintenant, c'est vrai que c'est dommage, à un moment donné, de devoir aller vers de la musique de librairie quand on parle d'un musicien comme Michel Legrand. On a eu... on a fait cette folie de ne mettre que de la musique de Michel Legrand. Et heureusement qu'on a été suivi par les maisons de disques comme Universal, comme Warner Chappell, comme Sony et comme d'autres, parce que sans ça, on n'aurait jamais pu laisser cette musique à l'écran. Ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, quand vous regardez le film, quand vous le vivez pendant 1h50, eh ben vous faites un espèce comme ça de voyage temporel dans toute la création musicale de Michel. Et ça, c'est vrai que c'est assez fascinant.
Ce qui est fou, c'est que Jacques Demy n'avait pas prévu de faire des films avec de la musique au début. Vous nous le racontez, et ça, on est vraiment imprégné par ça, par ces témoignages, par ce que vous rajoutez derrière, que vous connaissez parce qu'il vous l'a raconté. Et c'est vrai qu'on se dit, voilà, ça tient à rien, en fait. Ça tient à rien, c'est des rencontres hyper importantes qui ont donné vie à de sublimes films et une filmographie qui ne s'est pas arrêtée.
Mais vous savez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que tout dans le cinéma, en tout cas, alors l'art en général, mais parlons du cinéma, tout dans le cinéma tient sur, effectivement, comme vous dites, les rencontres. Si à un moment donné, voilà, Demy ne rencontre pas Legrand, probablement que Les Parapluies de Cherbourg n'existent pas. Les Demoiselles de Rochefort non plus. C'est ça qui est incroyable, c'est que, vous savez, les Américains, ils disent « marriage made in heaven ». C'est ça, c'est-à-dire une rencontre qui se fait au paradis. La rencontre entre tous les deux, c'est quelque chose qui, pour moi, tient de la divinité. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été envoyé, si on est croyant, par les anges, par le ciel, enfin, par ce que vous voulez. Mais c'est quelque chose qui, en tout cas, tient du divin. Parce qu'effectivement, arriver à faire autant de films mémorables qui ont captivé le public et qui continuent de captiver le public. Aujourd'hui, il y a une génération assez nouvelle qui a entre 15 et 25 ans qui connaît Podane. Oui. Moi, je suis fasciné. Hein. Je trouve ça extraordinaire.
On le regarde encore.
Mais on le regarde encore. Et j'ai été présenter le film en Corse il y a trois semaines. Il passait le lendemain Podane et c'était plein. Et c'est vrai que ça tient... Le cinéma, les films tiennent aux rencontres. Et j'ai envie de vous dire, le mien fait partie en fait de ce genre de rencontres. Parce que quand on y réfléchit un instant, si je ne rencontre pas Michel, ben ce film n'existe pas. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis arrivé au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire, je suis arrivé au moment où Michel Legrand, malheureusement, allait vers une fin de carrière, une fin de vie. Oui. Bon. Si je ne rencontre pas Michel à ce moment-là, je ne fais pas ce film-là. Vraiment, hein, je fais autre chose. Je fais un énième documentaire sur un homme voilà, qui a composé des œuvres magistrales. Mais là, en ayant fait cette rencontre à ce moment-là, c'est autre chose qui sort en fait. Et vraiment, je le dis, ça, c'est des choses que vous ne maîtrisez pas. C'est la vie, elle vous emmène par moment où vous devez être, à l'instant où vous devez y être. Et je pense que vraiment, Michel et moi, on s'est rencontrés pareil. Alors, je n'ai absolument pas la prétention de Jacques Demy, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Vraiment pas du tout. Mais c'est important de... Moi, je prends conscience, en fait, que quelque part, la vie m'a emmené à le rencontrer au moment où il fallait le rencontrer. Et c'est pour ça que ce film existe, en fait.
Et il a fait d'autres rencontres, il a changé aussi des personnes. Je pense à Claude Nougaro, qui est voilà, célèbre ici. Et quand il l'a rencontré, il écrivait. Et le fait, cette symbiose avec cette musique, lui a donné envie de chanter et de vivre ses musiques avec Michel.
Mais vous savez, partez du principe d'une chose. Alors, évidemment, Nougaro, c'est une rencontre exceptionnelle et c'était vraiment une amitié incroyable entre les deux. Vous savez, moi, je l'ai découvert, la vie de Michel, en interviewant les gens. C'est-à-dire que je ne suis pas historien, et encore moins de musique, et certainement pas, j'ai aucune prétention sur la vie de Michel Legrand. Maintenant, comme je le dis au début du film, quand j'ai eu cette envie, ce désir de faire ce film sur cet homme-là, il y a eu un moment donné où il a fallu que je puisse savoir, en fait, que je sache ce qu'il avait vécu, comment il l'avait vécu, et quoi de mieux que d'aller interviewer les gens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, qui sont ses enfants, donc qui sont son sang, quoi. Et c'est ça qui m'a emmené à connaître la vie de Michel Legrand. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne connais pas une seule personne avec qui il ait collaboré, que Michel n'ait pas transformé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une exception. Je ne suis pas une exception, et personne ne l'est. Vous pouvez parler à Pierre Boussaguet, qui est contrebassiste et qui a tourné des années avec lui. Vous pouvez parler à Éric Berchaud. Vous pouvez parler à n'importe quel musicien qui a tourné avec Michel Legrand, ils vous diront tous « Michel m'a transformé », en bien ou en mal d'ailleurs. Mmh. C'est-à-dire qu'ils aient on va dire un souvenir, entre guillemets, négatif de leur expérience avec Michel, ça leur appartient. J'en connais très peu. La plupart, même une très très grande partie, vous diront « Michel Legrand, on en garde un souvenir mémorable », au sens positif du terme. Mais encore une fois, je pense que tous les gens qui ont travaillé avec lui, tous les gens qui l'a croisé, même qui ne font pas forcément de la musique, ont été imprégnés du génie de cet homme.
Et je pense à la rencontre avec Barbara Streisand, qui avait elle aussi son caractère, qui savait poser les choses, dire les choses comme elle le voulait, et Ian Thiel, qui est vraiment un film magnifique, qui transpire toute la musique, toute l'âme de Michel Legrand, et il reçoit justement le troisième Oscar, et là, il n'y va pas, et j'apprends, parce que par vous, en fait, il y a des choses que j'ai apprises, pas grâce au documentaire, que voilà, il a fait une dépression et que ça a été très très loin.
Alors, je me permets une petite correction, c'est pas le troisième Oscar auquel il n'a pas été.
Ah, c'est le
premier.
C'est le premier.
En fait, Michel a fait une dépression, on va dire, dans la quarantaine. C'est-à-dire au moment où, effectivement, il écrit cette partition de l'affaire Thomas Crown. Et là, il est confronté à ce qui va bouleverser sa vie et jusqu'à la fin de ses jours, c'est-à-dire la conscience de la mortalité. La conscience de la mortalité, chez Michel, elle crée une panique qui le fait tomber en dépression. Mais elle ne crée pas que ça. Elle crée aussi une urgence, une envie forte, absolue, de compresser le temps. Et donc, du coup, pour Michel, de faire le plus possible d'œuvres dans ce qu'il va considérer être le restant de ses jours. Et qu'il ne maîtrise pas, parce que je veux dire, le restant de ses jours, quand à un moment donné vous prenez conscience que vous êtes mortel, bah, vous pouvez mourir demain, comme vous pouvez mourir dans 50 ans. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va être un moteur, en fait, cette conscience de la mort. Et c'est ce qui va réellement l'emmener à travailler sans arrêt, d'arrache-pied, à composer, à essayer de nouvelles choses musicalement parlant, enfin, à aller comme ça dans des directions vraiment diverses et variées, parce qu'il va vouloir faire le maximum de choses avant d'être confronté au fait qu'il va devoir partir, quoi. Et c'est ce qui se passe dans le film et qu'on a capté, et ça c'est vraiment, encore une fois, c'est le hasard, hein. C'est le hasard qui m'a demandé de collaborer avec lui à ce dernier concert, Alors ça, c'est un hasard et c'est un cadeau absolu pour le réalisateur que je suis et que je souhaite devenir le mieux possible dans mon existence. Avoir collaboré avec Michel Legrand, c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu me faire dans mon existence. Parce que j'ai travaillé à ses côtés pendant plusieurs semaines pour arriver à mettre à l'écran des montages qui correspondent à ce que Michel avait écrit pour le film qui était concerné, c'est-à-dire remonter Yentl, remonter la vie de château, et trouver en fait un arc narratif qui permette à ce que le spectateur entende la musique et voit les images en se disant « j'ai compris de quoi on parle, j'ai compris le film et j'ai reçu la musique telle que je devais la recevoir ». Donc ça, c'était vraiment un cadeau merveilleux. Mais pour revenir à ce que je disais sur la mortalité, Michel, ce dernier concert, on est tous persuadés, moi je suis intimement persuadé qu'il savait.
Il savait, oui. C'est ce que, enfin, quand quelqu'un lui dit de rester, ouais, et il dit « ah oui, oui, c'est bon, je peux le diriger, de là, il n'y a pas de souci », et puis quand il voit les choses arriver, alors l'entracte, voilà, jusqu'à l'entracte, ça va, et après il revient, il laisse le temps, et quand Yentl arrive, là il dit « non, je veux y aller », et il fait toute la partie, enfin, c'est vrai que tout le monde s'inquiétait, était prêt à courir le remplacer.
Nous, on avait vraiment peur ce soir-là. Nous, on était au courant, dans un petit cercle, hein. On était au courant que Michel était en très, très mauvaise santé. Donc, notre plus grande peur, à certains d'entre nous, et la Philharmonie de Paris n'était pas au courant.
Oui.
Mais la plus grande peur que nous avions dans le petit cercle de Michel, c'était de se dire, il va mourir sur scène. Alors, c'est la plus grande peur, et quand vous y réfléchissez, c'est probablement la plus belle chose qui puisse arriver à un artiste. En même temps, quand on tient aux gens comme on tenait à Michel Legrand, on n'a pas envie de ça. On n'a pas envie de ça, donc c'est vrai qu'on était là à se dire est-ce qu'il va y arriver, est-ce qu'il va pouvoir diriger, etc. Quand il y a eu cet intermède, en fait, et que je suis allé le voir en coulisses, et que après, à la deuxième partie du concert, je le vois ne pas revenir, là, c'est un peu la panique, quoi. C'est un peu la panique parce qu'on dit qu'est-ce qui se passe. Et imaginez-vous que ce que je montre dans le film, moi je ne l'ai pas vécu. C'est-à-dire que je suis sur scène.
Oui.
Je suis sur scène avec les musiciens, je suis derrière les contrebasses, j'ai un moniteur qui me permet en fait de voir ce qui est diffusé à l'écran, que je ne peux pas forcément correctement regarder, et donc je suis relié à ce qu'on appelle la régie vidéo. Et à ce moment-là, je ne suis absolument pas au courant de ce qui se passe. Donc moi je l'ai appris après. Et c'était encore pire, en fait, de savoir que Stéphane Le Rouge était allé le voir en lui disant « Tu peux pas monter sur scène comme ça. » Et que Michel ait dit « Oui. » Vous savez, ce film, c'est une aventure exceptionnelle. Mais vraiment exceptionnelle. Des films comme ça, et là, vraiment, j'insiste sur ce que je vais dire, il n'y a absolument pas de notion de prétention dans ce que je vais dire là. Mais pourquoi des films comme ça, on en fait très peu? Parce qu'encore une fois, on ne vous donne pas l'opportunité de vivre une telle situation à chaque fois que vous rencontrez un artiste. Moi, je n'avais pas prévu, en allant voir Michel Legrand en 2017 et en le rencontrant, je ne lui ai pas dit, vous savez, Monsieur Legrand, je vais vous suivre jusqu'à la fin de vos jours. Pas du tout. On avait prévu de faire un film ensemble. Il devait participer à ce film. Il devait être là à la projection. La vie, on décide autrement. Donc, c'est pour ça que j'insiste en disant, on ne fait pas ce genre de film tout le temps. Parce qu'en fait, on est confronté à des choses qu'on ne maîtrise pas.
À la réalité.
À la réalité de la vie. Mmh. Et finalement, j'ai eu cette opportunité de filmer ces événements et après de prendre la décision de montrer ou de ne pas montrer ça. Et d'être aussi évidemment soutenu par les ayants droit, hein, Michel Legrand, c'est-à-dire Macha Meryl, les enfants de Michel, qui sont devenus des personnes très proches aujourd'hui. Et qui ont absolument adoré le film. C'est une des plus belles reconnaissances pour moi. Elle vient des ayants droit de Michel,
oui,
qui m'ont dit ce film, c'est lui. C'est lui, et on a vraiment l'impression de retrouver, alors pour certains, notre père, pour d'autres, l'époux, et pour d'autres, l'idole, quoi. Donc, c'est vraiment pour moi très émouvant d'entendre ces gens-là qui l'ont connu ou qui l'aiment vous dire on reçoit Michel Legrand comme on espérait le recevoir, en fait.
Et Macha Meryl, c'était sa force, Parce qu'à un moment donné, il dit « Oui, je me sens pas bien, j'ai envie de mourir. Je préfère mourir. » Et elle la regarde et fait « Ah non, sûrement pas. » C'était vraiment le truc. Et du coup, ça lui a insufflé. Il s'est remis et il est reparti sur des tournées au Japon, alors que les médecins lui avaient dit non. C'était une force de la nature. Cette personne-là, ça force le respect et l'admiration.
Mais totalement. Michel avait une force. Alors, il avait une double force. Il avait d'abord une force physique assez incroyable quand il s'agissait de parler de l'art, en fait, d'être dans l'art. Et en plus, il avait une autre force, c'est la force de l'amour. C'est-à-dire que Michel, à chaque fois qu'il a été amoureux, les gens qui ont partagé sa vie, et Macha Mérine n'échappe pas à la règle, évidemment, c'était des personnes qui étaient extrêmement importantes pour lui. Macha a joué un rôle très important durant les dernières années où elle a été à ses côtés. Et c'est vraiment, évidemment, l'amour qu'elle lui a donné a été, pour Michel, quelque chose sur lequel il a pu se reposer dans ces moments-là. Mais vous savez, ça a été aussi le cas, et c'est important de le souligner, avec tous les musiciens qu'il a côtoyés pendant des années. C'est-à-dire, évidemment, hein, Macha, dans son rôle de femme et d'épouse, elle a été présente. Mais quand vous parlez à quelqu'un comme Éric Berchaud, quand vous parlez à quelqu'un comme Pierre Boussaguet, François Lézot, batteur, ou même encore d'autres musiciens qui l'ont accompagné et qui sont dans le film, ben vous vous rendez compte, finalement, que Michel a été très, très entouré tout au long de son existence, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me plaît à raconter dans ce film-là.
Et ce que j'aime bien, c'est que jusqu'à la fin de sa vie, il a su s'amuser. Il dit tout le temps, ça revient ce mot. Amuser, 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 rire, amuser, amuser, enfant, profiter, amuser, amuser. C'est vraiment le mot de dire s'amuser, profiter et prendre conscience, vivre les choses comme un enfant qui ouvre son cadeau à Noël.
Non, mais c'est ça, c'est Michel, c'était un enfant de 12 ans dans un corps de 85 ans. Moi, quand j'ai rencontré la toute première fois Michel Legrand, j'ai compris très vite, en fait, que j'avais affaire à Peter Pan.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire quelqu'un qui n'avait jamais voulu grandir, qui évidemment a grandi par la force des choses, on ne peut pas contrarier la nature, mais on peut, on va dire, tricher. Et Michel trichait avec la nature, trichait avec cette vieillesse qui à un moment donné s'emparait de lui, mais en gardant une âme d'enfant intacte, et c'est ce qui lui a permis, comme vous le dites si bien, de toute sa vie jouer dans le double sens du terme d'ailleurs, jouer comme un enfant et jouer comme un artiste.
Merci beaucoup, David.
Bah, je vous en prie.
Merci pour ce moment.
Avec plaisir.
Eh oui, il le vit vraiment. Il vit vraiment ce documentaire. Et en revoyant des images du documentaire, ça le remet dans ce dernier concert, dans ce dernier moment où tu te dis, c'est la dernière fois que les gens l'ont vu. C'était un homme qui donnait et qui aurait pu mourir sur scène. Qu'aurait pu mourir derrière son piano. Il était vraiment intense. Oui, quand il était en colère, fallait pas rester à côté. Hein. Il nous a raconté énormément d'anecdotes. Le réalisateur David Herzog des sites, il y avait vraiment eu un débat, mais de folie à la fin du film. On n'a pas vu passer le temps, tellement les gens regardaient. À un moment, les gens ont regardé leur monde d'ailleurs de dire « Non, mais c'est la dernière question. » Et en fait, de dernière question en dernière question, ça a continué. Les gens voulaient en savoir plus par rapport au travail minutieux et au travail incroyable qu'avait fait le réalisateur David Herzog des sites. Et voilà, il y a des moments comme ça qui sont hors du temps où on vous raconte des anecdotes, où il est là. Et en plus, il imite la voix de Michel Legrand, tellement il l'a connu, tellement il a passé de temps avec lui, tellement il s'est fait remis à sa place, mis en boîte, tout ce que vous voulez, eh bien voilà, il vit tellement cet instant, et quand il est re-rentré dans la salle pour regarder les 30 dernières minutes du film, c'est voilà, il avait regardé les 30 premières et il voulait regarder les 30 dernières pour voir si tout allait bien, pour et puis à chaque fois, enfin moi j'ai tourné la tête vu que j'avais déjà vu le film une fois, j'ai tourné la tête et j'ai vu ce regard empreint de larmes, ce regard plein d'admiration, pas pour son travail, non, pour l'homme qui était à l'écran, le grand compositeur Michel Legrand. Et je vous invite vraiment à aller voir ce film qui sort le 4 décembre au cinéma pour ressentir cette claque. Par contre, n'oubliez pas vos mouchoirs parce que la dernière demi-heure, elle est extrêmement poignante. D'ailleurs, je vous propose d'écouter les avis des spectateurs du Festival international du film de Muret.
Ah, j'ai beaucoup aimé. C'est original. Je dirais aussi que ça fait revenir en arrière. Ayant 75 ans, j'ai retrouvé beaucoup de musique que je connaissais, revu les images de ces musiques. Voilà.
Merci. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir votre prénom ?
Jean-Claude.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Je l'ai trouvé très très intéressant. C'est pas forcément mon époque et ma culture, donc j'ai pas toutes les références forcément au niveau de la musique. Mais c'est vrai que non, au niveau de l'histoire du personnage, il y a beaucoup de choses à dire.
Oh bah, très intéressant comme film aussi. Le fait que ce soit pas chronologique, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. Et puis, ouais, franchement, c'est bien filmé, bien monté. Et puis, on en découvre beaucoup sur ce personnage de façon professionnelle, mais aussi sa vie personnelle. Donc, je trouve ça très intéressant.
Merci. Est-ce que je pourrais avoir votre prénom et le prénom
Il s'appelle Iban et moi, c'est Elaya.
Ça m'a permis de découvrir des compositeurs de musique de film, notamment, que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est très efficace pour donner envie de retourner au cinéma, enfin retourner et récupérer les DVD de toutes ces musiques. Pour ça, c'est très bien. Après, ça s'attarde plus sur ses œuvres que sur sa vie. Je m'attendais peut-être à un film un peu plus polémique sur sa vie et sur sa vie personnelle, quoi.
On le voit quand même un petit peu.
Oui. Mais non, j'étais très content, je ne connaissais pas du tout et ça m'a vraiment redonné envie de me replonger dans les archives des films de l'époque et en écoutant plus particulièrement la musique, du coup, en me concentrant pas que sur les images. Donc c'était vraiment une belle découverte. Voilà.
Merci. Est-ce que je pourrais avoir votre prénom ?
Yann. C'est un film qui m'a assez surpris parce que c'est une forme assez formelle de presse de télévision, de beaucoup d'entretiens, beaucoup d'images d'archives, etc. Ça m'a assez perturbé. Et en fin de compte, toute l'histoire, en fait, le réalisateur suit vraiment Michel Legrand dans son intimité. Et la construction, c'est surtout la construction qu'il fait de ces images-là qui en fait un objet singulier de cinéma, dans lequel il met des interviews structurantes de gens qui parlent de lui après sa mort ou de proches, etc. Mais du coup, l'un dans l'autre, ça crée un format assez hybride entre le documentaire formel et le documentaire de création qui est hyper riche parce que Michel Legrand, on le redécouvre. Et moi, ce n'est pas ma génération, même si j'ai été porté comme tout le monde par ses musiques. Et là, de le voir d'aussi proche dans son intimité et en plus d'un point de vue d'un réalisateur aussi passionné par ce personnage, c'est incroyable.
Merci. Je peux avoir ton prénom ?
Antoine.
Fou, nouveau, universel.
Tellement inventif.
You ask people about French music in the 20th century, he is in the top 5.
Michel Legrand.
Toutes ces musiques uniques font vraiment partie de notre culture.
On entend Bach, Chopin, Rachmaninov. Des influences jazz, américain, tout ça s'est mélangé.
Hollywood vous a consacré avec 3 Oscars. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ?
Rien du tout.
Quand ils ont lui donné 5 jours pour écrire un truc, il jouait au tennis pendant 3 jours.
Moi, ça a changé la forme du feu de Dieu.
Je te dis, s'il aime ça, tant mieux. S'il aime pas ça, je m'en fous.
J'aurais pu lui casser la gueule.
Mais j'en rêve.
Et si je peux avoir peur ?
Michel n'avait pas peur de la mort, il avait peur de perdre le goût de la vie.
C'était difficile, je pleurais beaucoup.
Qu'un regret.
Émotion. Émotion égale Michel.
On a tous assisté à la naissance d'un musicien classique pour les siècles à venir.
Il était une fois
Michel Legrand.
Vous imaginez, ils étaient partis aux États-Unis au American French Film Festival qui s'est tenu en plein cœur d'Hollywood et ils étaient venus un peu à la touriste et ils ont remporté le prix du meilleur documentaire.
C'est fou qu'un réalisateur français ait pu avoir un prix pour un documentaire aux States. C'est quand même dingue. Ça prouve l'aura que ce mec a.
Ouais, et puis que Michel Legrand était adulé aussi aux États-Unis et l'est toujours. C'était Chaud Devant, Festival international du film de Muret, avec Il était une fois Michel Legrand. Merci beaucoup à David Herzog Décide pour l'interview. Merci beaucoup Hugo.
Merci beaucoup à toi aussi.
Et rendez-vous le 4 décembre
pour retrouver
Il était une fois Michel Legrand au cinéma. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know.